livre du prophète Ésaïe. Et on va lire ensemble six versets, les six premiers versets du chapitre 54. Voilà ce que j'attends un instant que vous trouviez, que les Bibles s'ouvrent, que les pages se tournent. Quel doux bruit, merci Seigneur, c'est très beau ces pages, ces bruits de pages. On ouvre pour ce matin le prophète Ésaïe, chapitre 54, les versets 1 à 6, et c'est notre thématique pour le mois d'août. Voici ce que dit le prophète sous l'inspiration de l'Esprit. Réjouis-toi, stérile. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas dans l'énoncé là. Réjouis-toi, stérile. Je fais ça comment? Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Il est ton rédempteur. Il est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen. Le but de cette série de messages sur le mois d'août, bien-aimé, c'est de préparer nos cœurs à ce que Dieu veut et peut faire en nous et au milieu de nous, dans les temps qui viennent. Dieu ici présente à son peuple, vous pouvez mettre l'image suivante, Dieu ici présente à son peuple une promesse qui est bien plus qu'une promesse, c'est une vision d'avenir. Dieu propose à un peuple qui n'a plus d'avenir, il lui propose un avenir. Alors c'est vrai pour ceux qui sont plus familiers de la parole de Dieu, mais diront, tu sais Stéphane, dans un contexte immédiat, ce texte concerne Israël. Merci, je sais. Mais à cause des principes spirituels qu'il contient, il concerne l'Église et il concerne en vérité chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Dieu se présente ici comme le Dieu de relèvement, image suivante, le Dieu de restauration, le Dieu des nouveaux départs, et ça, bien-aimé, c'est une promesse, c'est une vision d'avenir qui est valable, peu importe ce par quoi nous sommes passés, peu importe ce que tu vis ou ce que tu ne vis plus, c'est un principe valable pour n'importe quelle situation personnelle ou ecclésiale. Cette vision est d'abord fondée sur la nature de Dieu, sur sa capacité, sur sa fidélité, sur sa grâce. C'est sa toute-puissance, une grâce suffisante et surabondante. Le Dieu de l'impossible a pris la parole et il est venu là devant un peuple qui était déprimé, qui était délaissé. Il est venu avec non pas une promesse mais une vision d'avenir extraordinaire. Et en réalité, il se passe quoi ici? Il se passe que le Seigneur, dans un langage métaphorique, dans un langage imagé, est en train de faire comprendre à son peuple qu'il veut et peut faire infiniment au-delà de ce qu'il pense ou de ce qu'il imagine. Ça vaut un petit amen. Et bientôt, vous ferez des grands amen. Ça, c'est ce que Dieu me dit dans ce langage imagé. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Le Seigneur est en train de me dire, il y aura plus après ta restauration qu'avant. Si vous avez le droit d'imaginer, pas de rêver, rêver ça sert à rien. Dieu fait pas de rêve, il a des plans, des projets, on y entre ou on n'y entre pas, on les vit ou on les vit pas. Dieu rêve pas. Mais vous avez le droit par moment d'être un peu nostalgique. Et si vous commenciez à être un peu nostalgique et de vous imaginer dans votre vie personnelle, dans votre couple ou dans votre église, quelle a été votre meilleure période? Quel est votre meilleur souvenir? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelle était la plus belle période de votre vie? Le meilleur moment, les meilleures semaines, les meilleures années que vous avez passées avec Dieu? Personnellement, familialement, dans votre couple ou d'un point de vue ecclésial. Ben vous, même en pensant à ça, vous êtes encore loin du compte. Vous êtes encore loin de ce que Dieu veut faire après la restauration. Et si vous espérez dans votre cœur, vous dites, ah, si seulement un jour on pouvait être comme, tu te souviens de ça, ah, si seulement un jour je pouvais à nouveau, ah, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand même, vous êtes encore trop loin du compte. Vous pensez encore trop petit. Parce que Dieu a bien plus. Parce qu'on est toujours plus béni après l'épreuve qu'avant. Parce que Dieu n'éprouve pas pour éprouver. Parce qu'il y a un chemin. Parce qu'il y a une pédagogie divine. Et on est toujours plus vivant, plus puissant après que le Dieu de résurrection ait fait son œuvre qu'avant. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est un principe. C'est le principe de la grâce surabondante. Bien sûr, vous allez me dire, mais tu sais, Stéphane, c'est pas évident de se projeter dans un avenir super radieux, merveilleux, quand on est blessé, quand on est à terre, quand on est déçu, quand on est incompris, quand on a été maltraité, quand on a été trahi. C'est pas facile de discerner un avenir puissant quand on souffre. C'est normal, c'est humain. Nos yeux, humains, notre attention, nos pensées vont se focaliser naturellement plus facilement sur la blessure que sur le Dieu qui guérit les blessures. C'est humain. On va beaucoup plus facilement se laisser envahir, même enfermer, par une situation plutôt que de considérer le Dieu qui veut ressusciter n'importe quelle situation. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous secourt. Par sa parole, c'est pour ça qu'il vient, c'est pour ça que le Seigneur, je vous montrerai en fin de message, donne toujours les plus belles paroles, les choses les plus extraordinaires, dans les pires moments de vie des uns et des autres, dans sa parole. Dieu nous secourt par sa parole, il nous fait des promesses, mais excusez-moi de le dire ainsi, le Seigneur ne nous met pas une carotte pour nous faire avancer. Ce ne sont pas des promesses d'hommes. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est pas les trucs du genre « Oh, t'inquiète pas, c'était pas si grave. Oh, tu sais, ça va aller, oui, ben avec le temps, on guérira. Oh, tu sais, finalement, c'est peut-être pas... » Mais non, parce que on en a vu d'autres. Demandez à Élie qui en avait vu d'autres, avec 850 faux prophètes. Lorsque Jézabel l'a regardé, lui a dit « Demain, à cette heure-ci, et le grand Élie, ben il s'est noyé dans un verre d'eau. Parce que c'est notre condition, c'est notre nature humaine. Donc il n'y a pas de « ça va aller », il n'y a pas de « on va s'en sortir », on en a vu d'autres. Dieu vient avec une vision, avec un plan sûr, certain, un avenir glorieux. Et je vous le dis, bien-aimé, l'avenir que Dieu vous prépare, je vous le dis, je vous dirai pas ça trop souvent, parce que ça pourrait être présomptueux. Je vous le dis, ça a une valeur prophétique, ce que je vous dis ce matin. Je donne ce message de valeur prophétique. Dieu a pour vous un avenir beaucoup plus beau que tout ce que vous avez vécu. Vous le croyez, vous le croyez pas, je sais ce que je dis. Et j'ai pas quitté Manosque si j'étais pas convaincu de ce que je dis. Cette parole est tellement sûre, Dieu, le Dieu qui me fait la promesse, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne se trompe jamais et il ne trompe jamais personne. Ce Dieu-là me dit, ma parole est tellement sûre que même dans le pire, tu peux déjà te réjouir parce que le meilleur arrive. Ça, c'est la première chose qu'il faut saisir, c'est sa parole. Parce qu'elle est éprouvée, parce qu'elle est fiable, parce que dans sa parole comme en dehors de sa parole, il me semble que le Seigneur a largement fait ses preuves. Et douter de lui, ne pas prendre sa parole suffisamment au sérieux, ce serait déjà un obstacle. Si le premier obstacle, la première erreur fatale serait de ne pas prendre sa parole suffisamment au sérieux, la deuxième erreur fatale, bien aimée, ce serait de croire que ça va tomber tout cuit du ciel. Que ça va tomber un lundi matin comme ça, comme par enchantement. peut-être qu'un petit coup d'onction d'huile ou une petite imposition du pasteur feront que, pif, paf, pouf. Ce matin, le premier principe, on peut mettre l'image suivante que je veux voir avec vous. C'est cette attente, cet impératif qui est fort du Seigneur. En fait, il y en a quatre. Le Seigneur montre, parallèlement à la certitude de sa vision d'avenir, de sa promesse, le Seigneur amène aussi, parce qu'il nous place toujours devant nos responsabilités, le Seigneur amène quatre impératifs, si vous avez fait attention. Élargis, ne retiens pas, allonge, affermis. Quatre impératifs qu'on va développer ce mois-ci. Le premier, c'est élargis. Vous pouvez mettre l'image suivante. Élargis l'espace de ta tente. Cette tente, évidemment, n'est pas physique, c'est pas une demeure matérielle. La tente dont il est question ici, c'est notre être intérieur. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit, vous êtes le temple de Dieu. Sa maison, c'est nous, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors le Seigneur me dit, parce qu'il est question de moi, il est question de mon cœur, il est question de mon être intérieur, le Seigneur me dit, élargis. J'ai beaucoup plus en réserve pour toi que ce que tu peux penser ou imaginer, mais il faut que tu comprennes. Psaume 24. Porte, élevez vos linteaux. Il faut que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant. Amen. L'Éternel puissant dans les combats. Voilà ton roi de gloire. Et beaucoup de textes nous parlent de la place. Et ici, dans ce langage métaphorique, le Seigneur me dit, fais-moi plus de place. Pourquoi fais-moi plus de place? Fais-moi plus de place parce que je suis un Dieu aux dimensions infinies, non mesurables, non quantifiables. J'ai des dimensions qui ne sont pas les tiennes. Alors élargis, car tu n'es pas dans mes dimensions. Image suivante, Dieu est un Dieu aux dimensions vertigineuses. Les dimensions de son cœur, les dimensions de sa toute puissance. Dieu est un Dieu surprenant. Il est généreux. La Bible est une succession de miracles, est une succession d'impossibilités. La Bible est une succession de problèmes, de situations que nous, humainement parlant, nous appelons impossibles. Possible, mais que Dieu, par sa grâce et sa puissance, rend possible. Amen. C'est lui, au point que, c'est ce que dit le, c'est ce qu'il est, il est dit, c'est ce que Dieu dit à Abraham dans le livre de la Genèse. Il lui dit, mais ce serait un excellent moyen de résumer toute la Bible. Y a-t-il quelque chose, finalement, quand on y pense? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Nous, on est étonnés. Mais on ne devrait pas. Ça, c'est un excellent résumé de la puissance de Dieu. Et le Seigneur me montre que c'est toujours dans l'impossible, parce que c'est comme ça, bien-aimé. Dieu n'est pas le Dieu des situations possibles. Dieu n'a que faire de nos possibilités, de nos cas, de nos règles, de nos traditions. Le Seigneur n'a que faire de tout ça. Nos possibilités, tout ce que nous sommes capables de gérer, d'aménager, d'arranger. Pardon, le Seigneur s'ennuie là-dedans. Dieu est le Dieu de l'impossible. Son terrain de jeu, si vous me permettez l'expression, c'est l'impossible. C'est ça son terrain de jeu. Et encore, le terrain n'est même pas encore à sa mesure. Le terrain est encore trop petit pour lui. Mais il faut que nous arrivions à comprendre un petit peu. Alors nous, quand on est plongé dans un domaine, quel que soit dans nos vies, on est plongé dans un domaine d'impossibilité. Mais le Seigneur, c'est tout juste la le terrain où il va commencer un petit peu à donner la mesure de ce qu'il est. Il dit, ah, enfin un terrain d'impossible. Tu vas voir un petit peu qui je suis. Là, tu vas pouvoir voir ma gloire. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a autant d'exemples dans la Bible. Tellement de récits. Tellement de personnages. Tellement de situations diverses et variées qui s'enchaînent, qui se succèdent. Et franchement, entre vous et moi, vous ne trouvez pas que la Bible, c'est un peu long des fois? Sérieusement.
Et machin engendra machin, et Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra machin. Et des histoires, des centaines d'années. Pourquoi ? Parce que le Seigneur me montre à chaque fois pourquoi ça a marché pour certains et pourquoi ça n'a pas marché pour d'autres. Alors qu'en fait, excusez-moi, c'était le même Dieu. C'est le même cœur. C'est le même amour. C'est la même puissance. C'est les mêmes promesses. Ils ont été mis au bénéfice de la même parole. Et pourtant, on n'a pas les mêmes résultats. Moi, je vous le dis, hein, s'il y a un Dieu pour Jean-Marc et un Dieu pour Stéphane, je claque ma Bible, je retourne dans la police. C'est hors de question. Je ne servirai pas un Dieu qui a un amour plus pour Paul que pour moi, qui a un amour plus pour Pierre ou Jacques ou Jean que pour moi. S'il y a une différence dans l'amour de Dieu, frères et sœurs, soyons conséquents. S'il y a une faille dans son amour, s'il y a une faille dans sa puissance, fermez vos Bibles, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais ne perdons pas notre temps avec un Dieu qui aurait des failles d'amour ou de puissance. Heureusement, alléluia, il n'en a pas. Le Dieu de l'impossible, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Le Dieu de l'impossible attend que nous fassions notre part d'impossible, de lui faire plus de place. Et le Seigneur me dit, mais en réalité, c'est parce que, excusez-moi, tu n'es pas dans mes dimensions. Mon frère, ma sœur, si ton cœur, je vous donne une image, si ton cœur est comme un dé à coudre, et que tu dises au Dieu de l'impossible, Seigneur, remplis-moi, ben, il va te remplir. Mais ça va être très vite rempli. Ça va être très vite consommé. Là, tu vas très vite te retrouver à court de ressources. Je donne pas cher de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta patience, de ta compassion, de ta bienveillance. Je donne pas cher de ta joie, de ta paix et de ta qualité de vie intérieure si ton cœur est rempli certes de Dieu, mais à cette mesure. Parce qu'avec, vous le savez, avec ce qui nous attend dehors dans ce monde, les ressources vont être très très vite consommées. Alors le Seigneur me dit, mais oui, je veux te remplir, mais élargis. Fais-moi plus de place. Si ton cœur est comme un dé à coudre, je vais remplir un dé à coudre. Tu veux plus? Ouvre plus. Comment on fait dans nos maisons humaines? Regardez, bien-aimés, c'est tellement logique. Le Seigneur est tellement logique. Il a beau être spirituel et invisible, il est extrêmement logique et rationnel. Image suivante. Comment on fait dans nos maisons, dans nos habitations humaines? Quand vous estimez que ça commence à faire un petit peu serré, qu'il n'y a pas beaucoup de place, vous êtes toujours en train de vous cogner dans la porte, dans le machin, dans le truc, le séjour, la chambre du petit. Un jour, vous en avez assez, vous dites, ah, et c'est bon, je respire plus là-dedans. Il faut que tu m'abattes tout ça. Enlève-moi ces murs. Fais-moi de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait pour élargir? Ben, on abat des murs. Comment j'élargis? Ben, abat des murs. T'auras plus de place. Et le Seigneur est en train de me dire, mais moi je suis un Dieu aux dimensions infinies. Je peux faire pour toi bien plus que ce que tu penses ou ce que tu imagines. Seulement, il faudrait que tu me fasses de la place. Parce que dans tout ça, on va le voir, le Seigneur va me dire, tu sais, c'est pas que je t'aime pas, mais je suis quand même à l'étroit dans tout ça. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre en définitive. Quel mur est-ce qu'on peut abattre dans nos vies spirituellement parlant? Quels sont ces murs? Ben évidemment, celui qui va venir le premier à notre esprit, évidemment c'est ce que dit le prophète Ésaïe un peu plus loin, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Et chaque fois, bien aimé, qu'il y a, on le sait, je passe rapidement, mais c'est des choses qu'on sera amené à reconsidérer régulièrement dans les études, chaque fois qu'il va y avoir un compromis, chaque fois qu'il y a un péché caché, entretenu, le premier qui en souffre, c'est l'Esprit Saint en moi. Et le Seigneur me dit, tu vois, moi je t'ai délivré de tes péchés à la croix. Donc ça, tu n'as pas à l'entretenir. Ce mur-là, si tu as un compromis dans ta vie, c'est à toi d'abattre ce mur. C'est à toi de régler les compromis que tu as faits. Ça, c'est un mur, par exemple. Des forteresses de pensées, là. Les pensées du cœur, là, là. L'apôtre Paul parle, en 2 Corinthiens 10, il dit aux Corinthiens, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, c'est en grec, c'est oupsomai, qui sont de véritables hauteurs, fortifiées, hauts et larges, des oupsomai. Paul dit, nous luttons et nous combattons par la parole contre ces forteresses de pensée qui s'opposent à la connaissance véritable du Christ. Et quand nous avons dans nos êtres intérieurs des forteresses de pensée, l'Esprit de Dieu est... Vous savez quel est le but de la Bible, bien-aimé ? Bien sûr, en premier lieu, elle me révèle qui est Dieu. Chaque jour. En deuxième lieu, bien sûr, elle me révèle qui je suis. Pas la partie que je préfère, mais c'est nécessaire. Mais la Bible va beaucoup plus loin dans sa volonté. Le but de l'Écriture sainte, frères et sœurs, c'est de m'amener à penser comme Dieu pense. De m'amener à raisonner. Mes pensées, Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Le but de la Bible, c'est de m'amener jour après jour à apprendre à penser comme Dieu pense, à raisonner comme il raisonne, à voir les situations, les gens, l'autre, moi-même, Dieu, la situation, l'opportunité d'impossibilité, à voir tout ça comme Dieu, lui, il le voit, à l'analyser comme il l'analyse, ce qui va m'amener à me positionner comme lui se serait positionné, à réagir comme lui, il réagirait, et à parler comme lui aurait parlé. C'est ça le but de l'Écriture. Des forteresses de pensée qui doivent être abattues. Il y a aussi, bien aimé, je sais que la vie moderne est ce qu'elle est, mais il y a les murs de nos agendas, les murs de nos excuses. Je ne sais pas comment c'est à Aubagne, hein, je peux parler librement, je ne connais personne. J'ai jamais vu dans toutes les églises, j'ai vu ça, j'ai jamais vu autant de gens suroccupés que les retraités. C'est incroyable. Les excuses de nos agendas. On a, ah Seigneur, tu comprends. Ah, puis, quand le peuple est rentré de déportation, livre du prophète Agé, cette histoire de reconstruction, de restauration de Jérusalem après la déportation, nous on lit ça comme ça en quelques chapitres. Il faut savoir que cette histoire, ça a duré sur 20 ou 30 ans. Au moins 20 ans, ça a duré très longtemps. Et alors que les travaux avaient repris, la restauration allait bon train. Mais ce qui se passait, c'est que du coup, chacun commençait à avoir un peu ses priorités. Et puis la restauration n'allait pas comme elle devait aller, c'était même plutôt en train de se réduire. Et c'était même pas fini, que c'était déjà terminé, malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Et là, le Seigneur suscite le prophète Agé, le prophète Zacharie. Et le Seigneur dit à son peuple... Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand ma maison à moi, elle est détruite ? C'est pas de la morale évangélique que je fais. C'est un appel de Dieu. Le mur de nos agendas, de nos mauvaises priorités, de nos excuses. Oh, frère, vous savez, je viendrai pas mardi soir. C'est bien quand on connaît personne dans une église, au début, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est super. Je crois que les premières semaines, je vais... Vous savez qu'il y en a assez. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde et pour personne. Ah frère, je serai pas là mardi. Je suis fatigué. Ben, ça tombe bien. La fatigue, c'est pas une maladie. Tu dormiras après. Il y a tellement de bien-aimés qui sont persécutés dans le monde... Toi, t'es sûr qu'après la réunion, tu vas pouvoir rentrer tranquillement et te mettre au chaud sous la couette. Sauf que au lieu de t'y mettre à 19h30, tu t'y mettras à 21h. Et après, la fatigue, c'est pas une maladie. Puis dis-moi, mon frère, ma sœur, excuse-moi d'être pragmatique. Si tu gérais bien ton temps et tes priorités, tu penses pas que tu serais moins fatigué? De quoi as-tu le plus besoin ? Que je t'impose les mains ou de sagesse ?
Le mur de nos excuses.
J'espère qu'il y a des frères et sœurs, ils ne sont pas en train de se dire « Oh mince, on n'aurait pas dû dire oui, il n'aurait pas dû. » Trop tard.
Le mur de nos excuses. Les invités, la parabole des noces. « Oh maître, je suis désolé. » Ah, je serais tellement venu avec... Ah, je serais venu avec un tel plaisir, frère. Mais vraiment. Mais ah, je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille l'essayer. Ah, frère, c'est fantastique. Ah, c'est tellement bien. Ah, mais malheureusement, ah, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le visiter. Ah, frère, je suis en train de faire les travaux de ma maison. Je construis, je suis désolé. Puis après avoir construit, ah, frère, je suis fatigué. Puis après être fatigué, ah, ben, frère, je suis désolé. Mais de toute façon, on a un peu calculé juste avec ma femme, on a besoin de faire des heures sup pour pouvoir payer ce qu'on a mal géré, etc. Donc, je fais des... Donc là, vraiment, ah, non, je suis désolé, il faut que je reste au travail parce que...
Le mur de nos mauvaises priorités.
Puis dans tout ça, le Seigneur, il nous aime. Hein, il nous aime toujours pareil. Mais le Seigneur, il me dit avec amour, il me dit, mais il me reste quoi comme place à moi dans tout ça? Quand nous posons nos conditions au Seigneur, ah, je l'aime bien celui-là aussi. Ah, vous savez, frère, moi j'ai servi. Moi j'ai donné. Mais on m'a pas... Et on ne m'a pas. Alors, vous savez, frère, quand le Seigneur... Hein, ben alors, vous savez, frère, quand l'Église... à ce moment-là, je... Ah, si mon mari... À ce moment-là, oui, on verra si. Si ma femme, machin, à ce moment-là, je... vous savez, on va voir. Si le nouveau pasteur... Peut-être, frères et sœurs, c'est se condamner à tourner en rond. On trouve des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et on s'enferme, nous-mêmes, on s'enferme dans une prison de passivité, une prison d'attentisme. L'attentisme... C'est un tueur de promesses. Que demain votre pasteur ce soit un pasteur génial ou une grosse buse, excusez-moi l'expression, vous ne pouvez pas faire dépendre la promesse de Dieu d'un homme, d'un conjoint, de ceci. Rien, bien-aimé, ne peut, parce que c'est le Dieu de l'impossible qui te le promet, rien ne peut vous empêcher d'avoir l'avenir que vous avez envie d'avoir si vous l'avez décidé. Rien ne peut t'empêcher d'avoir la vie que tu veux avoir avec Dieu si tu l'as décidé. Personne. C'est nous qui mettons des limites et des conditions. Après viendra la suffisance, le fait de « Ah Seigneur, je suis bien comme ça, j'en ai pas besoin de plus, etc. » La tradition, la religiosité, j'aime bien ça, je le sens à 10 kilomètres, je vous en reparlerai. Le refus de changer, etc. Tout ça, ce sont des murs bien-aimés qui peuvent nous enfermer. Alors le Seigneur vient... Dans tout son amour, dans toute sa grâce, dans toute sa fiabilité. Il me dit, je veux que tu renverses ces murs. Élargis. Fais-moi de la place. Et tu vas voir. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais je suis blessé quand même. Oui, je sais. J'en ai parfaitement conscience. C'est en pleine conscience que je suis venu ici, je sais. Oui, mais je suis blessé. Tu sais ce que j'ai pu souffrir. Tu sais qu'on m'a trahi. Comment, tu sais... Oui. Puis si je ne le sais pas encore, vous allez me le dire, bien sûr. Et c'est vrai que dans chacun de nos cœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans chacun de nos cœurs, tous à des moments ou d'autres dans nos vies, personne n'y échappe. Nous avons des blessures, on a des souffrances, on a des incompréhensions, on vit des trahisons, des abandons, on vit des déceptions, on vit des souffrances pour lesquelles Jésus, ton berger, a réellement une compassion. Mais j'ai appris aussi, et je le dis avec amour, si nous n'avions que des blessures, frères et sœurs, ce serait beaucoup plus simple.
Mais nous n'avons pas que des blessures et des souffrances. Nous avons aussi nos propres caractères. Nous avons aussi nos propres pensées. Nous avons eu des attitudes. Nous avons eu des réactions. Nous pouvons avoir aussi des raisonnements, des conceptions, des paroles, des excuses, des caractères, des failles, des torts. Nous avons eu aussi notre propre nature pécheresse qui peuvent réellement compliquer l'œuvre de restauration. C'est vrai que tu as souffert du péché des autres. Oui. Mais n'oublie pas, et je n'oublie pas, que j'ai aussi une nature pécheresse. Et que là, il y a aussi des murs à abattre. Quand on se cache, bien aimé, je vais le dire différemment, avec bienveillance, parce que c'est un mécanisme humain, c'est normal. Quand on se sert de notre blessure pour l'exposer, pour s'excuser, pour se protéger, quand on se sert de nos blessures et qu'on centre tout sur nos blessures, c'est une grave erreur parce que ça nous enferme. Et ça ralentit, pour ne pas dire que ça détruit, l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Alors le Seigneur, c'est ce qu'il dit quand il nous dit avec amour et bienveillance, « Je suis un Dieu aux dimensions infinies. Je peux faire tellement plus que ce que tu penses. Mais il faut que tu élargisses. Et les murs, je ne les abattrai pas à ta place. C'est toi qui vas le faire. Et tu verras ma gloire. Même blessé. La blessure amène une nécessité de soins considérable. Et on prendra tout le temps nécessaire pour toutes les blessures, de la plus petite à la plus grande, jusqu'à la guérison complète. La blessure amène beaucoup de besoins. Mais la blessure ne nous empêche jamais d'élargir nos cœurs au Dieu de restauration. Image suivante, c'est la dernière. Je veux juste insister parce qu'il va y avoir tellement sur les temps qui viennent. Au mois d'août, je vous parlerai de tout ça, on va continuer. Mais je voudrais vraiment vous montrer ce principe et que vous compreniez que, excusez-moi de le dire ainsi, hein, j'ai pas exagéré, c'est pas une interprétation particulière de ma part d'Ésaïe 54. Regardez un petit peu dans l'Écriture, quelques exemples. Le nombre de fois où c'est dans un moment difficile, impossible, que le Seigneur, dans un moment de crise, de manque, ce que vous voulez, dans un moment difficile, le Seigneur a demandé, avant d'intervenir, soit un engagement, soit un investissement, un pas de foi, une préparation, le Seigneur a demandé quelque chose. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'a pas inventé la cistana. Le Seigneur a inventé la foi. Et la foi, elle est participative. La foi est active. La foi, cette ferme assurance, puisqu'elle est ferme assurance, est une démonstration. Et comment je démontre ma foi ? Par des pas d'obéissance. Même quand il n'y a rien devant moi, le Seigneur me dit, fais ça. Oui, Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il dit, par exemple ? Exode 19, ça fait pas longtemps que le peuple est sorti d'Égypte. Extraordinaire. Ils ont la promesse du pays promis. Ça fait bien longtemps que Dieu a promis même à Abraham. Ils ont la promesse de ce pays. Et Dieu leur dit, Exode 19, c'est un moment clé, un moment charnière de l'histoire du peuple, même s'ils ont pèleriné longtemps derrière après, mais c'est un moment charnière, Exode 19. Ils sont dans le désert du Sinaï. Sinaï, ça signifie épineux. Ils sont sortis d'Égypte, mais ça se passe pas bien. Ils sont plus dans le monde, mais ils sont pas encore dans la plénitude de Dieu. Ils sont dans le désert, épineux, et ça ne se passe pas bien. Et le Seigneur fait encore une fois un contrat d'alliance avec eux. Il leur dit maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et on sait que malheureusement, ça n'a pas été bien loin. Une génération entière, malheureusement, est décédée, morte dans son désert, parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions de l'alliance. Regardez Josué 5, quelle victoire extraordinaire! Jéricho s'effondre! Oui, Jéricho s'effondre, oui. Les murailles sont tombées, oui. Les murailles extérieures, Dieu les a fait tomber. Oui, le problème de l'Église aujourd'hui, excusez-moi, hein, c'est pas les transgenres, c'est pas les homosexuels, c'est pas les musulmans, c'est pas l'ésotérisme. Le problème de l'Église aujourd'hui, ce ne sont pas les murs et les géants qui se dressent et qui grandissent. Plus on avance dans la nuit des temps, à l'extérieur de l'Église. Le problème de l'Église, ce sont les géants qui sont à l'intérieur de son cœur. Et là, en réalité, avant de faire tomber des murs extérieurs à Jéricho, ça c'est Dieu, d'accord ? C'est Dieu qui dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Tu n'y peux rien, c'est moi qui te le donne. Mais avant, Josué 5, on a un peuple qui va circoncire son cœur et qui va renverser, je vous en parlerai plus tard, des murailles intérieures. Ils l'ont fait avant et Dieu a exaucé après. Regardez un roi 19. Élie, je vous en parlais rapidement. Par la grâce de Dieu, vainqueur sur les 850 faux prophètes. Jézabel, ensuite, lui fait une menace terrible. Faut reconnaître que Jézabel, c'est pas un petit bout de bonne femme. Jézabel, pardonnez-moi l'expression, elle est vomie par l'enfer. Il y a vraiment un état d'esprit, il y a une entité spirituelle puissante derrière ça, au point que on la retrouvera même dans le livre de l'Apocalypse. Donc c'est pas n'importe qui lui dit « je vais te faire ce que tu as fait à mes prophètes ». Et humainement parlant, il y avait de quoi avoir peur. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez le récit, il va s'enfermer dans une caverne. C'est normal, et à ce moment-là, pour lui, tout s'est effondré. Et il s'est enfermé dans une caverne. Et à ce moment-là, parce qu'il est enfermé, il ne sert plus à rien. Il attend la mort, comme, pardonnez-moi, dans les églises, parfois des bien-aimés attendent le retour de Jésus. Mais Élie, lui, il ne sert plus à rien. Et pour pouvoir être à nouveau utile entre les mains de Dieu, retrouver le plan que Dieu avait tracé, pour qu'ensuite il aille déposer son manteau sur Élisée, le Seigneur lui adresse cet appel de grâce. Élie, tu as connu le feu, tu as connu le vent, tu as connu les tremblements de terre, tu connais le Dieu tonitruant qui fait trembler les montagnes. Mais aujourd'hui, tu vas connaître quelque chose de nouveau. Tu vas connaître la restauration de ma grâce. Tu vas connaître le murmure doux et léger de ma grâce qui t'appelle, qui te dit, Élie, j'ai encore besoin de toi. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu n'as plus envie. Je sais que c'est dur d'y croire. Mais viens, Élie, sors. Élie, que fais-tu dans ta caverne? Que fais-tu ici? Élie, sors. Élie est sorti. Et le miracle a eu lieu. Matthieu 17. Non, 2 Rois 4. La veuve. Élisée lui dit, elle est prise avec ses enfants par le créancier. Qu'est-ce que tu as chez toi? Un petit peu d'huile. C'est bien. Et Élisée n'a pas multiplié l'huile. Élisée lui a dit, tu prends tes enfants, tout le monde sur le pont, vous allez considérer cette affaire avec le plus grand sérieux. Vous allez aller frapper à toutes les portes, tu vas voir tous tes voisins avec tes enfants, et tu vas ramener tous les vases que tu peux. Tu prends des vases, des petits, des grands, tout ce que tu trouves, tu me le ramènes, mais tu n'en prends pas un petit nombre. Arrête de penser petit, tu me ramènes tout ce que tu peux. Et à partir du moment où elle a ramené tout ce qu'elle pouvait, l'huile a commencé à couler, 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 couler. Et au moment où il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Elle a dû aller chercher des vases avant que l'huile ne coule. Matthieu 17, je passe. Ah non, je passe pas, je l'aime trop. Matthieu 17. Pierre, il est embêté, il faut payer l'impôt du temple. Il s'est fait coincer par les pharisiens à l'entrée. Il n'a pas de quoi payer. Jésus sait que Pierre est embêté. Alors il lui fait une petite parabole. Puis il lui dit, afin de ne pas les scandaliser, t'inquiète pas Pierre, c'est moi le propriétaire du temple. Mais je vais quand même payer pour ne pas les scandaliser. C'est bon, ça va. Mais j'ai rien, Seigneur. Et le Seigneur, là, ne lui sort pas un statère, il ne lui sort pas de l'argent. Le Seigneur lui dit, ben voilà ce que tu vas faire Pierre, tu vas aller au lac, tu vas jeter l'hameçon, le premier poisson que tu pêches, tu lui ouvres la bouche, dedans il y aura de quoi payer l'impôt du temple. Si seulement je pouvais payer mes impôts comme ça. Il y a été, il l'a fait, et le miracle a eu lieu. Luc 9. Seigneur, cette foule est là. On ne peut pas les renvoyer. Enfin, si on aimerait que tu les renvoies, Seigneur, là, il est trop tard. On n'a rien. Vous avez quoi? Vous avez quoi? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Donnez-les-moi. Déjà là, ils ont dû se sentir encore plus bêtes. Ils n'en avaient déjà pas grand-chose, maintenant on n'a plus rien. Alors Seigneur, ça y est, tu vas multiplier, tu leur donnes à manger, tu vas faire un truc qu'on n'a jamais vu, Seigneur. Non. Non. Faites-les asseoir par rangée de 50. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 30 000 personnes. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis à passer à table. Faites-les asseoir par rangée de 50. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 40. S'il vous plaît, alors là, il y en a 48. 2 ici. Ah non, bah non, maintenant, ça fait 52. Donc, s'il vous, voilà, merci, vous bougez plus. Merci. Alors, vous, s'il vous plaît, alors, 50, c'est, bougez pas. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis à faire ça, mais c'est fou. Faites-les asseoir par rangée de 50. Les gens, ils ont dit, mais pourquoi vous nous faites asseoir? Ah, franchement, on n'en sait rien, là. Mais ils l'ont fait. Ils se sont structurés, ils se sont organisés, ils ont obéi, ils ont fait de la place, ils ont préparé. Et le miracle a eu lieu. Un autre, vous êtes là jusqu'à 19h, de toute façon tout va bien. Les 10 lépreux. Maître, de loin, aie pitié de nous, guéris-nous. Le Seigneur s'approche même pas d'eux. Alors que lui, il ne craint pas, il peut toucher les lépreux. Le Seigneur s'approche même pas d'eux. Ouais. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, il arriva qu'ils furent. Mais ils ont obéi avant. Jean 11, Seigneur, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Marthe, est-ce que je t'ai pas déjà dit? Bien-aimé, le Seigneur ne vous a-t-il pas déjà dit, maintes fois, si tu crois? Allez-y. La croix, croire, c'est pas une vague croyance. La foi, croire, pistez où la foi, c'est une démonstration. Et Marthe, elle a accepté, elle a dit ok, aux juifs qui étaient là. Roulez la pierre. Il a fallu rouler la pierre avant que le mort ne sorte. Le moment a dû être terriblement gênant. Et pourtant, le miracle a eu lieu. Frères et sœurs, je conclue avec ça. C'est à un peuple qui ne vit plus dans l'étendue de la bénédiction. C'est à un peuple qui est dans son désert, avec toutes sortes de manques, de besoins, de consolation, de restauration, de guérison, de libération. Un peuple qui a toutes sortes de besoins. C'est un peuple qui vit encore au moment où Dieu lui parle. C'est un peuple qui vit encore avec la peine, avec l'opprobre de son passé, la honte, il porte encore en lui, sur lui, les stigmates de ce qui lui est arrivé. Comme une épouse délaissée, une épouse attristée, une épouse trahie, abandonnée, stérile, c'est à elle que le Seigneur dit, dans sa stérilité, prépare-moi un chemin. Élargis-moi l'espace de ta tente. Et tu vas voir si je ne vais pas te surprendre. On peut se recueillir, s'il vous plaît. On continuera dans les autres semaines. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir un simple temps de recueillement, s'il vous plaît.